Alléluia, Seigneur notre Dieu, notre Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Comme nous l'avons prié, je te prie que tu nous parles de ce combat, de cette marche des soldats que nous sommes appelés à être dans ces derniers temps. Combien, Père, lorsque nous chantons parfois certains chants, nos cœurs sont saisis de crainte, saisis de conscience par l'Esprit de Dieu, du temps dans lequel nous sommes, de l'urgence qu'il y a, Seigneur, dans ces choses dernières, dans ces dernières minutes, ces dernières secondes avant ton retour, de cette urgence qu'il y a de marcher, de semer, de servir, de travailler encore pendant qu'il fait jour. Ô Père, que cette conscience ne nous quitte plus, ou du moins de moins en moins, que cette conscience soit là, Père, dans nos cœurs, par l'Esprit de Dieu, par ta grâce, pour que nous marchions comme des bons soldats de Jésus-Christ, comme cette armée, cette épouse que tu viens chercher, une épouse amoureuse, une épouse que tu trouveras en train de te chercher, en train d'être à l'œuvre, comme cette femme des Proverbes, chapitre 31. De cette mère qui, Seigneur, est en activité, qui a la lampe qui ne s'éteint point, que nos lampes ne s'éteignent point, Père, mais que nous ayons, oui, cette huile pour briller lorsque tu reviendras et encore agir et travailler tant qu'il fait jour. À toi la gloire, notre Père, et bénis, Seigneur, ta parole, bénis ces quelques mots, Père, pour nous engendrer, nous former à ta suite. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous pouvons prendre un verset dans Job chapitre 7 et au verset 1. On parlait aujourd'hui du combat, de la marche avec Dieu et combien, Paul, vous le savez, nous allons passer quelques instants dans les deux épîtres à Timothée, combien Paul nous parle de ce combat, ou combien Paul nous parle de cette marche à la suite de Jésus. Qu'est-ce que dit Job, chapitre 7 et verset 1 ? Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Voyons dans la révélation biblique que Dieu, finalement, nous a créés pour être des soldats, nous a créés pour être des combattants. Dès les premiers instants de l'histoire de la création de Dieu, il y a eu la chute de Satan, qui est un profond mystère. La parole de Dieu nous donne que peu d'informations, si ce n'est dans Ézéchiel, par exemple, le chapitre 28, qui nous parle justement de la chute de Satan, mais on ne connaît pas bien les raisons de la chute de Satan. Mais n'empêche que, voilà, il y a eu la première brisure, le premier drame qui s'est passé dans le ciel, et nous le savons très bien, le tentateur, du coup, a voulu reproduire ce qui était arrivé avec lui, avec nous, mais parce que Dieu nous avait créés pour justement combattre et prendre le dessus sur le diable, prendre le dessus sur ce premier drame dans le ciel, pour que sur la terre, il puisse se passer une autre histoire. Une histoire, cette fois, à la gloire de Dieu. Une histoire, cette fois, qui reflète la présence et l'amour de Dieu. Et finalement, nous le savons, il y a eu un jardin céleste et il y a un jardin terrestre. Et dans ce jardin terrestre, celui qui avait chuté dans le jardin céleste a fait chuter nos premiers parents, Adam et Ève, et à sa suite, effectivement, il a entraîné toute l'humanité dans cette chute et dans ce péché. Et combien, depuis ce jour-là, la vocation de l'homme est celui de se battre, est celui de combattre, est celui d'être un soldat, et notre vie sur la terre, notre vie à la suite de Dieu, n'est faite que de combat, n'est faite que d'une guerre que nous menons. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a pourvu à notre salut, a pourvu à Jésus-Christ, afin que nous ne puissions plus lutter dans cette nature déchue, mais que nous ayons une nouvelle nature pour nous donner de combattre ce bon combat de la foi. Mais ô combien, encore plus en Jésus-Christ, nous sommes appelés à être des combattants, à être membres de cette armée de Dieu. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je crois, de fondamental de se rendre compte de cela. Que nous sommes créés pour le combat. Nous ne sommes pas créés pour le repos, du moins pas tout de suite. La gloire de Dieu, oui, nous attend. L'espérance du salut sera, oui, le repos, le véritable jour éternel où nous nous reposerons de toutes nos œuvres, où il y aura vraiment ce Shabbat, hein, ce repos éternel accompli, ce plein jour messianique que nous vivrons. Mais pour l'instant, ce n'est pas le temps encore. Pour l'instant, nous sommes dans cette vocation de combat. Et je crois que c'est important pour nous, à l'image de ce verset 1 de Job au chapitre 7, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. C'est très important pour nous d'être au clair avec ça. Parce que sinon, finalement, on va toujours vouloir aspirer à du repos, vouloir aspirer que ça se passe bien, que ça soit facile, mais non, c'est pas possible sur cette terre. Nous sommes créés pour le combat, nous sommes créés pour une vocation de triompher du diable et par la grâce de Jésus-Christ, d'effectivement prendre le pas sur le diable, justement comme quand lorsque Jésus avait envoyé ses disciples, hein, deux par deux, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, et bien justement les disciples reviennent en disant à Jésus ô combien ben, c'est glorieux ce qui se passe. Et effectivement Jésus confirme en disant « Oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Donc voilà, le royaume de Satan était ébranlé et il est ébranlé par l'Église, par l'autorité qui repose en nous et sur nous par le nom de Jésus. Et donc c'est pourquoi justement nous sommes dans ce combat. Nous ne sommes pas, ce n'est pas le temps de nous reposer, ce n'est pas le temps de nous relâcher, mais c'est le temps de persévérer. C'est le temps d'être clair de cette vocation que Dieu nous a adressée en Jésus-Christ. C'est l'image aussi effectivement de ce qui s'est passé avec Jacob, avec l'ange. Il est devenu celui qui lutte avec des hommes et avec Dieu. Il est celui qui a été trouvé vainqueur. Et nous lirons ces quelques versets dans l'Apocalypse, nous les connaissons déjà, mais au vainqueur, à celui qui vaincra, je donnerai cette récompense. Mais à celui qui pense que c'est déjà la terre promise sur cette terre, non, malheureusement, eh ben, il risque de périr dans le désert, du fait qu'il va murmurer, du fait qu'il va vouloir l'Égypte, il va vouloir le repos, il va vouloir les légumes, le poisson, la viande. Mais nous sommes dans ce désert. Dieu pourvoit à ce dont nous avons besoin. Dieu nous donne la manne. Dieu nous donne avec simplicité, avec grâce, avec bonté, des fois de l'abondance, mais des fois aussi nous sommes dans la disette. Mais nous devons apprendre à être heureux et à continuer de marcher comme a marché Paul et qu'il est un exemple pour nous. Et j'aimerais prendre pour introduire encore ces choses, Genèse 3, versets 14 et 15, nous connaissons bien ces versets où il y a la première prophétie du salut, de ce que Dieu va accomplir en Jésus-Christ après ces deux drames qui se sont passés, la chute de Satan qui a ensuite entraîné l'homme avec lui. Et qu'est-ce que dit Dieu dans Genèse 3, versets 14 et 15? Il parle donc au diable, au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous avons en hébreu, entre ta postérité et sa postérité, celui-ci, c'est un masculin, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et donc c'est bel et bien Jésus, Yeshua, le Messie qui est prophétisé là. Mais en même temps, dans ce verset 15, nous avons tout de suite l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Entre la postérité justement de Jésus, celui qui va écraser la tête du diable, il y a inimitié. Il y a inimitié entre Israël et Amalek, comme nous le voyons. Il y a inimitié entre Israël et tous les peuples qui environnent cette terre promise de Canaan qui devait être et qui devait appartenir au peuple hébreu. C'est pourquoi justement, il dit tout de suite et il donne de nombreuses indications dans la Torah, dans le Deutéronome, dans tous ces cinq premiers livres de Moïse, ô combien de ne pas faire alliance avec les nations qui les environnent, de briser les statuts, de dévouer par interdit, de ne pas se marier avec des fils, avec des filles, de ne pas aller après leur Dieu, etc. Parce que tout cela va être une occasion de chute. Ô combien justement cette inimitié, elle est là dès le départ. Dès le départ, Israël est dans un combat. Et Israël veut dire effectivement prince de Dieu, celui qui lutte avec Dieu, celui qui a été trouvé vainqueur, celui qui a été trouvé dans la persévérance à l'image de Jacob. Et ô combien c'est notre vocation, la vocation d'Israël, la vocation de l'Église, c'est d'être des Jacob, hein, dans cette nuit à Peniel qui tiennent cette jambe. Non pas pour obtenir une bénédiction et une faveur, voilà, pour qu'on soit bien sur cette terre, mais de ceux qui vont obtenir la véritable faveur de Dieu, de ceux qui vont obtenir le royaume de Dieu, de ceux qui vont obtenir la vie éternelle, qui vont être ceux qui vont obtenir le prix du bon combat de la foi, hein, de ceux qui vont obtenir cette couronne que Jésus donne à celui qui a combattu selon les règles. Et combien, justement, il faut que nous soyons clairs par rapport à cette vocation, afin que l'Église ne se méprenne point sur le chemin qui est tracé, qui est ouvert devant elle. Parce que sinon, alors, on va vouloir vivre des choses, on va s'attendre à des choses, on va même lire la parole de Dieu dans certains sens, et on va se fourvoyer. On va croire que, justement, on est déjà appelé à vivre le repos ici-bas. Mais non, ce n'est pas une vie qui est faite de repos. Nous avons, oui, en ayant connu Jésus, une paix intérieure, quelque chose justement que rien ne peut nous enlever, cette paix que justement Dieu seul nous donne. Mais en même temps, c'est une paix qui est encore là au fond, mais qui s'accomplit dans la marche, dans la vocation qui nous est adressée du combat. Et nous sommes dans la paix, mais en même temps nous aspirons à vraiment avoir et vivre cette paix en plénitude dans le royaume de Dieu. Et nous allons prendre quelques versets dans l'épître à Timothée, où justement Paul exhorte ô combien avec force et avec vigueur, avec clarté, son enfant dans le Seigneur Timothée, pour qu'il combatte ce bon combat. 1 Timothée 1, versets 18 et 19. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Vous voyez, pour Timothée, ça a tout de suite été clair. Alors on va dire, oui, mais je ne suis pas Timothée. Mais tout chrétien, dès qu'on rentre justement dans cette vocation, dès qu'on connaît Jésus, nous rentrons dans le territoire de l'ennemi. Tout ce que veut justement le diable, sachant qu'il a perdu, sachant qu'il a été vraiment défait à la croix du Golgotha, sachant qu'il est perdu pour l'éternité, mais qu'il lui reste peu de temps, afin de quoi ? Afin de jeter toutes ses forces dans la bataille pour prendre le plus grand nombre avec lui. Et c'est pourquoi, et en tant que chrétien, si on a la grâce de Dieu qui touche nos vies, tout de suite nous allons rentrer dans ce combat, tout de suite nous allons déranger, tout de suite nous allons être un membre de plus qui va pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, depuis que Jésus est venu, eh ben, ce royaume est ébranlé. C'est tout ce qu'on voit tout de suite dans la vocation de Jésus, dans les guérisons, dans le fait qu'il délivre les captifs, dans la vocation aussi qu'il adresse à ses disciples. Ben, ça prouve que justement le diable, le royaume du diable est ébranlé, que le royaume de Dieu est en train justement de venir, et c'est tout ce que dit Jésus justement à ceux qui ne croyaient pas en lui, aux pharisiens et autres, de dire mais reconnaissez que, parce qu'ils pensaient que c'était même par le diable qu'il faisait cette œuvre et ses œuvres, et bien Jésus dit ô combien non, un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même, sinon et bien il va tomber, il va se détruire. Mais justement si c'est pas par Satan, et bien si c'est par le doigt de Dieu que je le fais ça, et bien reconnaissez que le royaume de Dieu il s'est approché de vous. Et on voit que effectivement, en tant que chrétiens, nous rentrons automatiquement et obligatoirement dans ce combat. Et on le voit pour Timothée, eh ben, c'est tout de suite quelque chose qui lui est donné de rentrer dans ce bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et qu'à la suite, justement, de Timothée, nous sommes les enfants de Paul, nous sommes les enfants du Père des Lumières, nous sommes les enfants et les frères de Jésus pour justement marcher à sa suite. Et dans 1 Timothée 6, cette fois, au verset 11 et 12, nous avons encore une exhortation de Paul. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Puissions-nous combattre nous aussi le bon combat. Parce que nous sommes enrôlés dans cette armée. Nous sommes appelés dans cette vocation. Et ce combat, cette lutte, elle va cesser lorsque Jésus va revenir. Mais d'ici là, nous devons marcher d'un même pas. Nous devons être clairs de nos votre vocation. Lorsque justement nous marchons chaque jour, que ce soit dans notre vie de prière, que ce soit justement dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, dans nos familles, dans nos foyers, nous devons avoir conscience de ce combat. Nous devons avoir conscience de ce combat spirituel, de ces enjeux qui se passent, afin que justement nous ne nous laissions pas ébranler, mais que nous sachions reconnaître la voix du diable, que nous sachons reconnaître le tentateur, celui qui va vouloir nous décourager, celui qui va nous monter les uns contre les autres, celui qui va nous faire justement nous énerver, nous irriter, manquer de patience, celui qui veut encore nous faire tomber dans certains péchés. Reconnaissons sa voix et reconnaissons que si nous sommes chrétiens, nous devons lutter, nous devons combattre. Et nous allons le lire un tout petit peu plus loin dans 2 Timothée, chapitre 2 et verset 1. Ces versets bien connus aussi, 2 Timothée 2, versets 1 et suivants. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » On a besoin que le Seigneur nous donne cette intelligence en toutes choses. Il a besoin qu'à l'image justement de Timothée, on soit éclairé, illuminé sur cette vocation, sur justement le besoin que nous avons de nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ et de ne plus s'embarrasser des affaires de la vie. Mais au combien ben, ça doit être justement un puissant encouragement pour nous de voir que ben oui, je suis fait pour le combat, je suis fait pour ça sur cette terre. Ça nous donne justement d'être ferme, d'être clair, vous voyez, puis de plus laisser de penser le jeu se faire en nous. Non, non, je suis dans ma vocation ou je n'y suis pas. Je suis dans le bon combat ou je n'y suis pas, mais je ne peux pas être entre deux en me disant oui, aujourd'hui ça va mieux ou aujourd'hui c'est bien, on a vécu une bonne réunion hier soir, je vis encore de la grâce que j'ai vécue hier. Non, non, aujourd'hui est un autre jour. Et si j'ai vécu la grâce de Dieu hier, ben, je dois me fortifier dans cette grâce. Je dois marcher, je dois persévérer. Et ô combien ben, là, on est dans cette grâce de Dieu, on se fortifie dans cet amour du Seigneur et on n'est justement pas trouvé oisif, mais on est trouvé marchand. On est trouvé justement dans ce bon combat. Pierre nous parle aussi, et vous connaissez bien ses paroles, de ce combat vis-à-vis du diable et qu'il est ce lion rugissant. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Combien on voit ben, que oui, c'est un combat vis-à-vis du diable. C'est un combat vis-à-vis de ceux du dehors, même de ceux qui sont à l'intérieur. On le voit dans les épîtres de Paul, il nous témoigne de tout ce combat auquel il devait faire face. Et il avait cette détermination. Il avait le fait de justement y aller, marcher, ne pas s'arrêter. Et dans ce corps à corps, j'ai envie de dire, avec ce lion rugissant, Pierre nous parle lui aussi de résister avec une foi ferme et de voir que nous sommes tous dans le même bateau. Ce n'est pas plus facile pour un tel que pour un autre. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un voilà, qui peut-être prie plus ou etc. ou a l'air extérieurement de vivre plus de choses que c'est forcément plus facile pour lui. Peut-être que oui, s'il est plus fortifié dans la grâce de Dieu, c'est qu'il est plus oui, déterminé dans ce combat. C'est qu'il a plus conscience qu'il est ce soldat et que son sort sur la terre, c'est d'être un soldat. Notre sort sur la terre, c'est d'être un soldat. Et au combien, oui, bien sûr, nous aspirons à ce que la guerre cesse. Comme le dit ce chant, bientôt le Seigneur apparaîtra, nos yeux oseront-ils y croire, celui qui fait cesser la guerre, c'est justement celui qui va ramener la paix, comme on le voit dans ce conflit interminable et insoluble au Moyen-Orient, entre Israël, entre ses voisins, entre l'un, l'autre, etc. On voit que c'est spirituel, on voit que ça se passe dans les lieux célestes, on voit que c'est un combat de puissance, de ténèbres. Mais il faut qu'on voit que dans la vie de l'Église, dans notre vie chrétienne, c'est aussi un combat de puissance. On le voit, il y avait un ange qui était là pour souffléter à Paul. Il y avait le diable, justement, il est venu essayer de tenter Job. Et voilà, il y a des choses qui se passent. On voit que Daniel, justement, il a été poussé dans la prière pour justement pouvoir avoir la victoire. Et nous devons être conscients de ces choses-là. Sinon, nous marchons comme à tâtons, nous marchons un petit peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, d'amour et d'eau fraîche. Voilà, oui, Jésus m'aime, etc. Mais il y a une conscience du combat dans ces temps de la fin. Il y a une conscience de la lutte et du front dans lequel nous sommes qui a besoin de se faire plus intense dans chacun de nos cœurs afin, au contraire, ben là, de pouvoir être toujours plus fortifié de la grâce de Dieu, toujours plus fortifié de son amour, rendu plus inébranlable, être perfectionné, être affermi par Jésus. Mais si on n'a pas conscience de ça, on ne va pas grandir dans la perfection, on ne va pas grandir en étant affermi, on ne va pas grandir dans l'inébranlabilité. On aura comme déjà tout reçu, vous voyez. Et là, c'est vrai qu'il y a une séduction parfois qu'on entend chez certains chrétiens de dire, voilà, non, le désert, c'était avant qu'on connaisse Jésus. Maintenant, Jésus, c'est la terre promise, vous voyez. On est rentré en Canaan, on a triomphé de tous nos ennemis, on a la paix. Et maintenant, voilà, il faut profiter de la vie en Christ. Et puis tout est fait, ça y est, vous voyez. Et au combien, non, c'est pas biblique tout cela. Ça, c'est pas biblique. On n'est pas encore dans cette terre promise. On a comme reçu les arts de la terre promise. On a comme reçu justement cette justification, cette vie nouvelle, cette vie éternelle en Jésus. Mais comme dit Paul, c'est en espérance qu'on est sauvé. Et on n'y est comme pas encore rentré. On est sorti d'Égypte, oui. On a été sauvé. On n'est plus sous l'esclavage. En même temps, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Il y a encore un petit bout de chemin. Et justement, où c'est le temps, et bien effectivement, le temps du murmure ou le temps de la foi, le temps de Josué et Caleb ou le temps du reste du peuple, le temps de ceux qui ont vraiment la foi ou de ceux qui sont incrédules, qui se laissent justement tenter par le diable qui est incrédule, qui veut venir nous mettre des pensées justement de découragement. Et on a besoin de reconnaître cela, on a besoin de voir au combien il y a cette lutte. Et je crois que ça va faire de nous qu'une église qui va être beaucoup plus ravivée, une église qui va être beaucoup plus consciente, qui va beaucoup plus refléter Jésus. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la réalité de la Bible et de l'Évangile. Et en tout cas, moi, personnellement, pour ma vie, en méditant à ces choses, ça me donne, vous voyez, d'être encore plus déterminé, encore plus résolu. Et on a besoin, parce qu'on prend à l'image de ces nouvel an que la société, que le monde d'aujourd'hui célèbre avec des bonnes résolutions, etc. Nous avons aussi des bonnes résolutions avec Dieu. Nous faisons aussi des bonnes résolutions. Nous prenons des décisions. Mais est-ce qu'elles tiennent longtemps dans notre vie? Est-ce que vraiment elles demeurent dans notre vie? Et c'est peut-être parce que si elles ne demeurent pas, qu'on n'a pas vraiment conscience que, plus que, oui, une nouvelle année sur laquelle on fait des bonnes résolutions, mais que là, le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Que là, nous vivons justement les derniers temps. Nous vivons cette fin des siècles, comme Paul parle. Et vivant cette fin des siècles, et je crois que ça ne peut que nous donner d'être beaucoup plus déterminés. D'être encore plus des gens décidés, qui s'attachent à Dieu comme jamais ils se sont attachés. Et si les premiers chrétiens s'attachaient à Dieu d'une si grande force, parce qu'ils croyaient que Jésus revenait d'un instant à l'autre, bien plus pour nous, qui voyons l'accomplissement des prophéties, qui voyons toutes ces choses qui se sont passées sous nos yeux, le retour d'Israël sur sa terre, avant un petit peu au début du XXe siècle, ce réveil de Pentecôte qui a balayé le monde entier, de ce retour justement à ses dons, à ses charismes, comme le vivait l'Église primitive. Ce retour d'Israël, ces deux guerres mondiales, ce pic du péché, de la débauche. On voit combien le diable il jette vraiment toutes ses forces dans la bataille dans ces derniers temps. Il faut qu'on voit qu'on est dans ces temps de la fin. Il faut qu'on voit que justement ça ressemble à aucun autre temps qu'on a vécu avant. Et combien l'Église de Jésus-Christ dans ces temps de la fin, elle doit être une Église de combattants et de guerriers comme jamais elle l'a été. Par la grâce de Dieu. Et effectivement, c'est ces exhortations que nous donne Jésus dans l'Apocalypse, au chapitre 2, au chapitre 3, comme on le connaît. Je vais simplement vous lire, non pas un passage, mais juste ces quelques versets, un petit peu à la suite. À celui qui vaincra, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. » Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Combien, je crois, en ayant parcouru un petit peu Timothée, en parcourant très rapidement ces premiers chapitres de l'Apocalypse, c'est clair. Et il faut qu'on voit que cette identification au Fils de Dieu, elle est dans le combat. Il n'était pas sur la terre pour plaisanter Jésus. Il n'était pas là pour commencer à perdre du temps. Il avait une mission et il a avancé dans cette mission. Il a marché dans cette mission. Et il faut qu'on voit que nous-mêmes, on est encore tellement séduits, tellement tentés de perdre du temps à gauche, à droite. D'être pas des gens qui ont des œillères comme ces chevaux et qui marchent dans une seule direction. Paul, lorsque Dieu il l'a visité, lorsque Dieu l'a rencontré, il avait sa mission, il avait ses œillères, il a mis ses œillères et il a marché. Il savait que le temps était compté. Alors pour nous aujourd'hui, qui avons, on a toute la révélation biblique, on peut dire c'est parce qu'il allait être martyr, il allait mourir jeune. Mais nous, on croit qu'on a toute la vie devant nous. On croit qu'on a du temps, vous voyez. Mais non, on n'a pas de temps. Le temps s'enfuit, le temps se fait court. Et je prie pour qu'on soit saisi par l'Esprit de Dieu, par la grâce du Seigneur, par son amour, qu'on soit jeune, justement, qu'on soit moins jeune. On n'a plus de temps. C'est plus le temps de rigoler, c'est plus le temps de plaisanter. C'est venu le temps de marcher dans la mission et dans la vocation que Dieu nous a adressée. Et alors, oui, on sera identifié à celui qui avait une mission et qui l'a suivi et qui l'a mené jusqu'au bout. Jésus, il savait, il n'a pas perdu de temps. Combien on voit que même des fois, il y a des gens qui viennent vers lui, etc. Et comme il le dit, mais il ne dit pas comme ça, il ne dit pas « j'ai pas le temps », vous voyez. Mais Jésus dit « non, il faut que je parte, parce que j'ai été envoyé pour d'autres aussi. Il faut que je travaille pendant qu'il est temps, parce qu'après, justement, ce sera trop tard. » Et à l'image de Jésus, à l'image de Paul, nous sommes appelés à être conscients de ce combat, conscients que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, comme le dit Job. C'est là que Éphésiens 6 prend aussi toute sa signification pour nous. Sinon, à quoi nous sert de vivre Éphésiens 6, de connaître Éphésiens 6, de vouloir alors soit le proclamer comme une prière superstitieuse où c'est bon, nous avons mis l'armure, nous ne craignons plus rien aujourd'hui. Non, non, l'armure d'Éphésiens 6 est une armure tout à fait concrète. Elle est tout à fait concrète. Elle est l'armure justement du Saint-Esprit, de ceux justement qui marchent à la suite du Seigneur, de ceux qui sont déterminés et de ceux qui persévèrent. Alors, oui, nous sommes revêtus de toutes ces armes qui sont en Jésus et nous les avons sur nous, nous les portons parce que nous portons la détermination qui était en Jésus. Nous portons ces versets de l'Apocalypse à celui qui vaincra, à celui qui a des oreilles qui l'entendent. Eh bien, j'entends aujourd'hui, Seigneur. J'entends et je vis cette armure et je marche avec cette armure. dit Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pas tenez ferme quelques jours, une semaine, deux semaines, un mois. C'est tenez ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire qu'on tient ferme jusqu'au bout parce qu'on est fortifié par sa force toute puissante. Et c'est ce qu'il termine par dire, je ne lis pas les armes, mais prenez justement, faites en tout temps par l'Esprit, au verset 18, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Vous voyez Paul ? Il était en prison, il était enchaîné, et il demandait justement aux gens, aux chrétiens, à ceux qui le suivaient dans son ministère, de prier pour lui, pas afin qu'il soit délivré, puis que ça aille mieux, puis qu'il aille prendre un temps de retraite, et puis de repos pendant quelques semaines, hein, pour après redémarrer dans le ministère. Il prie simplement, ben justement, de pouvoir vraiment être ambassadeur, et de pouvoir en parler avec assurance, comme il doit en parler, que justement, ben, quand il ouvre la bouche, ben, il soit hardi, il soit libre pour faire connaître le mystère de l'Évangile. C'est-à-dire, justement, il prie pour que dans ses chaînes, eh ben, il garde cette détermination de prêcher l'Évangile. Il garde la puissance du Saint-Esprit pour justement continuer sa mission. Et pas, justement, comme il le dira à un autre moment donné, la parole de Dieu, elle n'est pas enchaînée. Moi, je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Et combien il prie, c'est sa prière, de rester cet homme déterminé. On voit combien il y avait cette course, on n'a pas le temps, et c'est un sujet interminable. Mais à nombreuses fois où il parle de cette course, où il parle ben, de cette détermination, où il parle justement qui traite durement son corps, qu'il y va, qu'il marche, qu'il chemine, on le voit dans l'épître aux Corinthiens quand il fait mention de tout son ministère, dans les naufrages, dans les jeûnes, dans le froid, dans les veilles, avec les voleurs, les persécuteurs et tout ce qu'on veut. Et par-dessus tout cela, il dit encore le souci des églises, le souci de l'inceste de Corinthe, le souci de tel autre dans telle autre église, etc., de ceux qui posent des questions par rapport au mariage, à ci, à ça. Combien Paul, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il a vécu, on ne se rend pas compte du poids qui reposait sur sa vie. Mais pourtant, ce qu'il demande, ce n'est pas du repos, c'est d'être hardi et d'être libre pour continuer sa mission, pour continuer à marcher. Et combien, justement, avec une telle vocation, on ne peut s'embarrasser des choses de la vie si on veut plaire à celui qui nous a enrôlés. Mais c'est notre liberté de comprendre qu'on est un soldat bien-aimé. C'est notre liberté. Au combien ça met du carburant, ça met du zèle dans nos cœurs pour vraiment signer notre vie, mettre notre signature en bas de la page en disant « Seigneur, j'irai jusqu'au bout pour toi et jusqu'au bout du bout. » Et qu'après avoir justement tenu ferme, eh ben je puisse résister après avoir encore tout surmonté. Et que là, oui, je sois revêtu de toutes ces armes que le Seigneur donne, le salut, la justice, la vérité, l'épée du salut, la foi. Je me saisis de toutes ces choses pour être justement un bon soldat de Jésus-Christ qui va certes souffrir, ça ne va pas être facile, mais justement ben, qui va prier, qui va persévérer pour être toujours hardi dans sa vocation. On peut prendre l'Apocalypse au chapitre 14, Apocalypse 14, verset 9 et suivant. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. » Et quiconque reçoit la marque de son nom. Si nous voulons un faux repos, j'ai le repos en Jésus-Christ déjà dans mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous me comprenez. Mais si j'aspire à ce repos finalement humain et charnel déjà sur cette terre, finalement un repos ou lorsque je suis tenté, lorsque j'ai des difficultés, pas comme Paul justement, mais comme quelqu'un de faible, comme quelqu'un de fragile qui se laisse prendre par le tentateur, par le diable, je me relâche. Je retombe, je me repose, vous voyez, et je m'assieds au lieu de continuer à marcher. Justement, je n'aurai point de repos dans l'éternité. Vous voyez combien ceux qui veulent du repos dans ce siècle, et c'est tout ce que nous dit aussi Jésus, ceux qui ont déjà leur récompense sur la terre, ils ne l'auront pas dans le ciel. Ceux qui rient aujourd'hui, ils ne riront pas dans le ciel. Ceux qui sont riches ici, ils ne seront pas riches dans le ciel, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rire ou on ne peut pas avoir certaines richesses aussi sur la terre, bien évidemment. Vous comprenez dans le sens de ceux qui vivent que de cela ou de ceux pour qui leur vie, c'est ça. Ô combien il va y avoir ce renversement avec la venue de Jésus, ça va être l'inversement du royaume, les premiers sont les derniers seront les premiers, et du coup de ceux qui se reposaient sur la terre, et qui ont bien profité de se reposer, vous voyez, de ne pas en faire trop, à l'inversement du royaume, on risque d'avoir des surprises, on risque de voir que, là ceux qui se sont justement, qui auront vécu selon le train de ce monde, selon le prince de ce siècle, tout à coup la Bible nous dit, ils n'ont point de repos, ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et nous, qui parfois, sommes enchaînés, comme le disait cet homme de Dieu, Bounce, il disait, si la soif de Dieu n'est pas plus forte que le sommeil, alors c'est qu'on a perdu notre goût pour Dieu. Et je me l'applique à moi-même, sachant que c'est toujours quelque chose à remettre en pratique dans notre vie, par rapport au sommeil, par rapport à d'autres choses, pour vraiment être asservi par rien du tout, mais être vraiment libre pour Dieu, et pouvoir, même si on est fatigué, prendre du temps pour Dieu. Ou que tout à coup, si le Seigneur nous demande de passer une soirée, une nuit dans la prière, nous puissions dire Amen, nous puissions être là, comme je l'ai écrit dans cette méditation de cette semaine. J'ai dit, mais si Dieu nous embête lorsqu'il nous demande quelque chose, on a peut-être envie de le servir, mais Dieu ne pourra jamais se servir de nous, vous voyez. Et combien, le Seigneur veut encore agir, veut encore œuvrer dans notre vie, en nous montrant, en nous offrant conscience qu'il y a un combat. Et si on a conscience qu'on est un soldat, on va avoir conscience que sur le front, et je me souviens, j'avais vu quand j'étais jeune à l'école ce film sur le débarquement des Américains, là, il faut sauver le soldat Ryan. Et je me souviens, ils sont justement sur la plage, et puis ça mitraille de partout. Et il y en a un, il reçoit une balle dans son casque, sur son casque, et donc il est protégé par son casque. Et puis il est tout surpris, tout choqué, il enlève son casque pour justement voir, et puis prendre quelques instants, j'ai envie de dire, pour méditer à ce qui vient de lui arriver. Puis c'est là qu'il prend une balle dans la tête. Et c'est une image aussi pour nous, pour notre vie chrétienne. Il faut qu'on garde ce casque, il faut qu'on garde cette armure tous les jours. Et il n'y a pas un jour où mon armure, je la range, parce que là, hier... ça a bien chauffé, j'ai été criblé de balles, mais heureusement, j'avais l'armure de Dieu, donc tant mieux. Alors aujourd'hui, c'est mon jour de repos, c'est mon jour de permission. Non, il n'y a pas de permission sur le front dans lequel nous sommes, bien-aimés. Et justement, si nous enlevons peut-être notre casque, si nous enlevons peut-être notre cuirasse, notre ceinture, nos chaussures, nous allons être blessés, et peut-être mortellement. Et c'est pourquoi on a besoin de comprendre cela et de voir que cet inversement du royaume, il doit faire vibrer nos cœurs pour nous donner de vivre de cette grâce de Dieu, de vivre de l'amour de Dieu, de vivre du feu de Dieu, de la persévérance, comme on va finir de le lire dans l'Apocalypse 14. Et de ne pas justement nous laisser séduire par celui qui est le séducteur et qui veut nous dire « ne t'inquiète pas, repose-toi ». T'en as assez fait, ça va bien, tu connais déjà Jésus, etc. Laisse-toi un peu aller, comme on l'a lu dans l'Apocalypse, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc c'est pas parce qu'on a connu Jésus que la lutte est finie, que le combat est fini. C'est pas parce que ces soldats ils touchaient la plage de France et puis qu'ils étaient là sur le territoire ennemi et qu'ils étaient débarqués que la guerre était gagnée. Au combien non, il fallait avancer, il fallait continuer, il fallait marcher. Jusqu'à ce que, oui, l'ennemi soit vraiment défait. Et c'est là qu'on prend conscience du besoin de la grâce de Dieu dans notre vie, du Saint-Esprit et des frères et sœurs. afin qu'on prie les uns pour les autres, afin qu'on soit une armée qui se tient les mains. Parce que si on se retrouve tout seul, comme on le voyait dans ce débarquement, ben, s'il y avait eu que le soldat Ryan ou qu'un autre qui avait débarqué, bon, ben, il se serait fait vite cribler de balles. Et on a besoin d'être cette armée ensemble, ces frères et sœurs qui s'aiment, qui s'édifient les uns les autres, afin que justement eh ben, le séducteur n'ait plus prise sur nous, mais qu'on soit ce peuple et cette armée qui marche, comme le dit Paul, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. Et donc voilà, de ceux qui se sont laissés séduire par le repos de ce siècle, par le repos de ce monde, qui n'auront pas justement dominé tout ce qu'il pouvait y avoir en eux par le Saint-Esprit, comme dit Paul, par le Saint-Esprit, faites mourir les actions du corps, faites-les mourir par le Saint-Esprit, par la grâce, par l'amour de Dieu, par le salut, par la conscience que vous avez des temps dans lesquels vous êtes, par le témoin que vous avez devant vous, qui est Jésus, qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection, ben, marchez comme lui-même a marché. Et bien justement, qu'on puisse choisir encore cette carrière aujourd'hui. Et au verset 12, Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est intéressant de relever qu'il dit qu'ils gardent les commandements de Dieu et pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Et on n'a qu'à simplement rapprocher ces versets de Hébreux, hein, Hébreux 12, versets 1 à 4. Eh bien, quel est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, qui nous montre l'exemple? C'est Jésus. Et c'est cette foi-là, c'est cette persévérance que nous sommes appelés à garder. Et qu'est-ce que dit l'Épître aux Hébreux? Nous le connaissons, je le relis simplement, rapidement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et après, il y a tout cet exposé de dire, voilà, si le Seigneur nous reprend, si le Seigneur nous corrige, parce qu'il nous aime. Si ce matin il nous dit qu'on est des soldats, que c'est le sort de l'homme, c'est d'être un soldat sur la terre, c'est parce qu'il nous aime. Justement, il ne veut pas qu'on soit comme ce soldat qui a enlevé son casque, qui a dit « Oula, mais je viens de prendre une balle, là. Oh, ben, c'est extraordinaire, comme ce casque qui m'a protégé. » Et là, nu, plus armé, plus protégé, eh ben, il s'est fait tuer. Et au combien nous devons avoir cette détermination qu'était en Jésus, c'est ça la foi de Jésus, que l'Apocalypse nous appelle à garder dans ces temps de la fin pour ne pas avoir cette marque de la bête, ne pas l'adorer, ne pas adorer son image, ne pas être séduit. Mais il veut qu'il y ait cette persévérance de Paul, des saints, de Hébreux 11, sur lesquels le diable n'a pas prise. Et le diable, eh ben, il peut ne plus avoir prise sur nous parce que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui habite dans le monde, que celui qui est dans le monde. Mais puissions-nous en être convaincus, puissions-nous être des gens déterminés et vivre justement ce Éphésiens 6. Et verset 13 pour terminer, « J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Et là, c'est les œuvres de Dieu, c'est la foi de Jésus, c'est les œuvres de Paul, c'est les œuvres de Hébreux 11, c'est les œuvres de celui qui a justement dominé le péché dans sa vie, de celui qui justement a fait mourir les actions du corps pour vivre par le Saint-Esprit. Et si on est né de nouveau, et bien justement, ben qu'on puisse laisser l'Esprit de Dieu prendre le pas sur tout en nous et mener cette vie chrétienne authentique. Et la vie chrétienne authentique, elle est faite d'un combat. Elle est faite d'une guerre, mais qui va un jour cesser, gloire à Dieu. Cette guerre, elle va cesser, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi justement, on peut dire, viens Seigneur Jésus, viens, amen, Maranatha, fais cesser cette guerre. Mais en même temps, je ne vais pas oublier la guerre, je vais laisser Dieu la faire cesser. Mais nous, nous sommes enrôlés à sa suite, et tant qu'il n'y a pas eu le stop de Dieu, eh ben, nous sommes appelés à marcher. Et je termine cette méditation par vous lire ces versets dans le Deutéronome, à l'image d'Amalek, qui est tombé sur les enfants d'Israël au désert. Deutéronome, chapitre 25, verset 17. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. » Amalek, c'est une incarnation du diable, de Satan. Hein. C'est l'image de Satan aussi qu'on doit détruire jusqu'au bout. « Comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. » Et combien le diable, il vient justement. Il vient par derrière. Il est justement le séducteur. Il est le malin. Il est rusé, comme le dit la Genèse. Il est celui qui était le plus rusé entre tous les animaux des champs. Et combien par ruse, eh ben, il a pris aussi ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Et combien on doit faire attention. Nous qui sommes dans le troupeau, je dirais plus que le troupeau, dans l'armée de Dieu, bah, qu'on ne soit pas derrière, vous voyez, que subtilement on ne se laisse pas entraîner à être les derniers tout à coup. Et c'est un petit peu des fois aussi, justement, le fait qu'on se dit non, je ne suis pas encore trop loin, mais on se laisse finalement toujours distancer un peu plus. Eh bien, que le Seigneur puisse nous montrer le besoin qu'on a d'être, je dirais, au milieu, vous voyez, d'être protégé vraiment au milieu de toute l'armée de Dieu, et qu'on soit les uns les autres cette armée, et qu'on fasse effectivement attention, qu'aucun de nous, justement, commence à être relégué derrière, et qu'on puisse tirer ceux qui sont derrière à revenir au milieu de l'armée, à revenir dans le camp, pour que justement Amalek et le diable ne nous séduisent pas. C'est ce que dit aussi l'épître aux Hébreux, de dire voilà, qu'aucune racine d'amertume ne pousse au milieu de nous, est-ce que justement elle n'infecte pas le reste, mais qu'on ne se prive pas de la grâce de Dieu. Et juste avant cela, qu'est-ce qu'il dit? La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et je crois que si on veut être des gens sanctifiés qui vont voir Dieu, c'est des gens qui vont combattre, c'est des gens qui vont marcher comme des bons soldats de Jésus-Christ et qui ne vont pas être pris par Amalek, qui ne vont pas se faire séduire par Amalek, mais qui au dernier jour, justement, lorsque Jésus reviendra, effaceront définitivement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux en envoyant le diable et ses démons dans la géhenne, dans le feu éternel. Voyons justement l'Exode, le Deutéronome, tout ce qui s'est passé, ô combien il y a cette vocation de la Genèse à l'Apocalypse, du combat, et puissions-nous être ces bons soldats. C'est ma prière pour nous ce matin, qu'on soit conscient que le sort de l'homme, c'est d'être un soldat, comme le dit Job, et que nous puissions être trouvés vainqueurs lorsque Jésus reviendra, que nous puissions être tous un peuple de vainqueurs. Nous sommes déjà pleinement justifiés en Jésus-Christ, alors que cette justification, que cette victoire que Jésus a acquise à la croix, elle puisse être manifestée dans chacune de nos vies par notre persévérance. C'est ici la persévérance des saints. Et alors, heureux serons-nous de nous reposer de toutes nos œuvres. Mais nous n'aurons pas la mauvaise surprise de voir que parce qu'on s'est reposé sur la terre, ou là, dans l'éternité, il n'y aura point de repos, justement. Comme ce mauvais riche et Lazare, il y a eu cet inversement du royaume. Il y a eu les richesses pour Lazare, mais il y a eu la pauvreté, il y a eu le feu, il y a eu l'enfer pour ce mauvais riche. Et qu'il était trop tard. Les choses avaient été scellées. Alors que nous puissions être cette armée et ces bons soldats de Jésus-Christ dans ces temps de la fin, pour la plus grande gloire de Dieu et pour que le plus grand nombre puisse être sauvé, puisse être encore engrangé dans les greniers de Dieu. Amen.